9h02. On constate deux phénomènes très simples. D'abord, un engouement pour les véhicules électriques, les véhicules hybrides. Ça demeure évidemment un faible pourcentage des ventes au Québec, mais c'est clair qu'il y a une tendance. Puis en même temps, une volonté des fabricants d'offrir assez rapidement de plus en plus de choix, de plus en plus d'options. Je vous parle ce matin du guide de pratique de la voiture électrique, et plus, préparé par Daniel Breton et Pierre Langlois. Daniel Breton est avec nous. Monsieur Breton, bonjour.
Bonjour.
J'ai pas mal feuilleté votre... c'est vraiment un guide loto, hein? C'est aussi simple que ça, avec des informations sur les programmes gouvernementaux. Ma première question va être bien simple ce matin. Oui. Est-ce que avoir un véhicule électrique au Québec, là, pour quelqu'un qui se déplace quand même pas mal, il y a assez de bornes, il y a un réseau de recharge disponible, accessible puis efficace?
Ben oui, en fait, le Québec est particulièrement gâté grâce au circuit électrique à d'autres réseaux complémentaires, comme le réseau Tesla, le réseau Flo et d'autres réseaux. Ce qui fait en sorte que moi, qui me déplace depuis des années en voiture électrique, je peux vous dire qu'alors qu'il y a 5 ans, c'était une aventure, aujourd'hui, c'est rendu facile dans, je vous dirais, 95% du territoire québécois, là, qu'on aille en Gaspésie, au Saguenay, à Ottawa, Laval, Montréal, Rive-Sud, l'Estrie. Ça va vraiment très bien aujourd'hui. Puis c'est d'autant plus facile que les voitures électriques, en 2012 et 2020-21, on est passé d'une autonomie moyenne pour une voiture qui n'était pas une Tesla de 120 km à 400 km. Et ça va toujours en augmentant.
Vous dites dans le guide, entre autres, que la Tesla, ce qui est étonnant, c'est de voir que c'est elle qui offre encore le plus d'autonomie et que le prix, qui demeure élevé, n'a pas tant changé depuis les dernières années.
Non, effectivement. Puis en fait, le prix des Tesla diminue, puis il y a même d'autres compétiteurs qui arrivent sur le marché. Chevrolet qui a annoncé sa Bolt 2022 qui s'en vient dans quelques mois. Je ne sais pas si vous avez vu le comparatif que j'ai fait où je compare une Chevrolet Bolt 2022 avec une Toyota Corolla de base automatique. Et puis tu dis, ben, après 5 ans, la Toyota Corolla t'a coûté plus cher qu'une Chevrolet Bolt à 417 km d'autonomie. Donc, les véhicules électriques deviennent de plus en plus compétitifs d'un point de vue prix.
En tenant compte des programmes de subvention?
En tenant compte des programmes de subvention. Cela dit, tout le monde s'attend à ce que les programmes diminuent graduellement et finissent par disparaître, d'autant plus qu'on s'attend à une espèce de parité des prix autour de 2024-2025 entre une voiture électrique et à essence sans subvention. Donc, les choses évoluent très rapidement.
Monsieur Breton, je comprends qu'il y a beaucoup, en fait, tous les fabricants ont commencé à offrir des modèles, puis comme vous le dites, avec de plus en plus d'autonomie. Est-ce qu'on sent qu'il y a une volonté réelle de s'en aller vers du 100% électrique, je sais pas moi, dans 10-15 ans, ou si ce sont des modèles là, pour satisfaire une tendance qu'eux perçoivent?
C'est une excellente question. En fait, c'est que ça dépend des constructeurs. Il y a des constructeurs qui veulent vraiment aller vers le 100% électrique. D'autres qui sont plus rébarbatifs, je dirais, qui vont de façon à suivre la réglementation internationale, parce qu'il ne faut pas se le cacher. Moi, je suis président de Mobilité électrique Canada. Quand on parle aussi bien avec des acteurs partout au Canada qu'aux États-Unis ou en Europe ou en Chine, ce qu'on voit, c'est que pour plusieurs fabricants, ce qui les a poussés à faire des véhicules électriques, c'est pas tant le fait qu'ils voulaient y aller que le fait qu'il y a une réglementation de plus en plus sévère qui est en place pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et diminuer la pollution atmosphérique. Donc, je vous dirais que c'est inégal comme portrait. Il y a des constructeurs comme Tesla, comme GM, entre autres, qui veulent vraiment aller vers le 100% électrique. D'autres sont plus rétifs. On va dire ça comme ça.
OK, mais on constate quand même, et je fais souvent les analyses avec le professeur Pinault, que, un, au Québec, la consommation d'essence n'a pas diminué, que les Québécois se sont tournés massivement vers des véhicules plus lourds, des VUS et des camions.
Absolument.
Donc, il y a un intérêt pour les véhicules électriques, mais en même temps, il y a encore la consommation, disons, de véhicules classiques. Avez-vous l'impression vraiment qu'on va être capable d'offrir une alternative électrique aux consommateurs de VUS et de petits camions?
Oui, en fait, ça commence déjà à arriver présentement, là. C'est-à-dire qu'il y a un plus en plus important choix de multisegments de VUS. Il y a même des pick-up électriques qui s'en viennent l'année prochaine. Ce qui va faire en sorte que les gens vont avoir le choix d'avoir un véhicule partiellement ou entièrement électrique dans toutes les catégories, ce qui n'était pas le cas il y a 2-3 ans à peine. Vous savez, la première partie du livre qu'on fait, là, la section guide pratique, là, c'est justement pour aider aux gens à comprendre l'ABC de la voiture électrique, aussi bien pour le choix qu'ils peuvent faire, le type de modèle, mais aussi comprendre comment ça fonctionne un véhicule électrique, parce que moi, je sais, là, c'est un peu comme quelqu'un qui n'a jamais fait de voile. Il y a des termes que les gens ne connaissent pas. Donc, le lexique et puis l'espèce d'ABC du véhicule électrique de la première partie est important parce que si les premiers temps, c'était les ingénieurs, les geeks, puis ce qu'on appelle les early adopters qui s'achetaient les voitures électriques, maintenant, c'est monsieur, madame, tout le monde. On est rendu à 100 000 véhicules électriques sur les routes du Québec. Le gouvernement du Québec a prévu 1,5 million de véhicules électriques ou 100%, c'est-à-dire 100% électriques ou hybrides rechargeables d'ici 2030. Mais pour ça, ça veut dire qu'il faut que le gouvernement pousse. Il faut aussi qu'il y ait des programmes d'éducation parce qu'il y a beaucoup de désinformation qui est véhiculée encore sur les véhicules électriques.
Comme
on reste en région. Écoutez, de dire que quand tu restes en région, tu peux pas avoir de véhicule électrique. Moi-même, je reste en région. Ce matin, je suis allé faire un petit jogging matinal. Les trois voitures électriques qui sont passées devant moi pendant les 15 minutes où je courais. Un autre préjugé, c'est que les véhicules électriques sont nécessairement trop chers. J'en parle dans le livre, je donne des chiffres à l'appui comme quoi, pour certains modèles, dès le premier mois, ta voiture hybride rechargeable ou électrique peut être moins chère.
Moi, ce que j'entends beaucoup, j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est justement les batteries. Là. C'est-à-dire que les batteries, ça va être une source, c'est une source de pollution et si on commence à... C'est pas vrai que électrique veut dire véhicule vert.
En fait, vous avez raison. C'est-à-dire, un véhicule électrique, ce n'est pas un véhicule zéro émission. C'est-à-dire que tous les véhicules, quels qu'ils soient, émettent des gaz à effet de serre, des émissions polluantes dans leur cycle de vie complet. C'est-à-dire de l'extraction des ressources à la fabrication du véhicule, à l'utilisation du véhicule. C'est une question de proportion. C'est-à-dire qu'un véhicule électrique, avec incluant la fabrication de la batterie, va toujours émettre moins de gaz à effet de serre et de pollution atmosphérique où qu'on soit. Il y a des analyses récentes qui sont sorties, là, dont une du Conseil national de recherche du Canada qui a déterminé que sur 150 000 km, qu'on soit en Alberta ou au Québec, même si la production d'électricité en Alberta c'est à 92% fossile, tu vas émettre moins de gaz à effet de serre avec une voiture hybride rechargeable ou électrique. Fait que le cycle de vie complet qui inclut la fabrication de batterie, elle fait en sorte qu'on va quand même émettre moins, même avec la batterie. Mais ce qui est le plus important, c'est que la batterie, elle, les composantes sont recyclables. Une compagnie québécoise comme Lithion, qui peut recycler jusqu'à 95% des composants des batteries, le pétrole qu'on brûle, lui, il est recyclable à 0%. Ça, c'est brûlé, c'est fini.
OK. Un auditeur là, qui vous écoute ce matin, qui n'a pas de véhicule électrique, puis qui pense à acheter un véhicule électrique, là, quelles sont les trois ou quatre questions les plus importantes qu'il doit se poser avant de choisir tel ou tel véhicule?
Ben, la première question, c'est est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un véhicule? Deuxième question.
Mettons qu'il dit oui.
Ben, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un véhicule aussi gros? Parce que ça, c'est une question que vous venez de l'aborder. Là. C'est qu'on a une mode des gens qui achètent des véhicules, à mon avis, qui sont souvent trop gros pour leurs besoins réels, mais c'est une mode, des VUS, c'est un segment. Ensuite de ça, c'est de voir ses déplacements quotidiens. Si cette personne-là, par exemple, a une borne à la maison ou une borne au travail, ben, tu achètes une voiture hybride rechargeable ou 100% électrique, c'est pas un enjeu. Si la personne n'a pas de borne à la maison, pas de borne au travail, peut-être une voiture hybride dans la transition va être facilitée. Vous savez, vous parliez de faire des grands voyages à travers le Québec avec les bornes de recharge. L'enjeu est moins vrai pour les longs voyages ou des déplacements en région que dans les centres-villes. C'est-à-dire que quelqu'un qui reste au 8e étage d'un bloc appartement, c'est pas sûr qu'il va être capable de se brancher à la maison. Donc, des fois, un véhicule hybride peut faire le travail.
Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Bonne journée. Daniel Breton est le co-auteur avec Pierre Langlois du Guide pratique de la voiture électrique publié aux éditions de L'Homme.